Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, épisode numéro 209. Play ball!
To left field, Gurriel back, off the wall, and just like last year, Atlanta walks it off in the home opener!
Eh bien, bienvenue, c'est l'épisode numéro 209 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très 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 plaisir encore cette semaine de vous retrouver comme chaque semaine. Et il est là, mon ami, mon compagnon, mon compadre, c'est lui, c'est Mike. Salut Mike, comment ça va?
Salut Guillaume, salut à tous. Écoute Guillaume, ça va plutôt pas mal. Je n'ai pas mal au coude. Et j'avoue que par les temps qui courent, c'est plutôt une bonne nouvelle.
Bon, Psartek, ça fait plaisir. Est-ce que tu as passé une bonne semaine?
On va dire moyenne.
Moyenne.
Sujet qu'on va aborder. Laisse-moi terminer.
Ah.
Moyenne vu le sujet qu'on va aborder en deuxième partie d'épisode, puisque
ouais.
le sujet il est quand même un peu gravissime pour nous en tant que fan. Après le reste plutôt pas mal. Écoute, j'ai eu ce qu'on appelle une en jargon technique. Une chatoune monumentale en fantasy la semaine dernière. Je ne sais pas comment j'ai fait pour gagner. Cette semaine, je suis bien derrière encore une fois, mais j'ai regardé tout à l'heure. Inch'Allah, ça peut passer. Je ne sais pas comment, mais voilà. Même si, on en a parlé la semaine dernière, je suis en gros risque de ne pas atteindre les 45 inning pitch. Et ça, c'est quand même drôle que ça arrive au Comiche qui a mis cette petite règle que tu ne dois retrouver dans absolument aucune autre fantasy, un peu de bâtard. Et c'est moi qui vais me faire carotte.
Ben ouais, mais c'est ce que tout le monde nous dit. Mais en fait, on a toujours dit qu'il y avait plein de trucs qui nous saoulaient dans la fantasy habituelle. Donc, les home runs, ils comptent pas. Chez nous, ça compte comme un run, mais c'est tout. Tu comptes pas grand chose. Si, ça rentre dans ton slugging, mais il n'y a pas un truc.
Non. Ça rentre dans ton OPS.
Dans l'OPS. Donc,
d'ailleurs,
il y a un truc que j'aimerais dire et où je pensais que tu allais le changer. Tu as mis l'average et tu n'as pas mis l'OBP. Et le problème de quand tu mets l'average, c'est que tu ne fais pas rentrer en compte, les bébés qui sont pris.
C'est pas faux, mais vu comment je l'ai lancé avec énormément de préparation,
ouais, je sais.
On va dire que j'ai fait reconduction et à la Bouddha Jésus, je vous aime tous, ça va le faire.
Bon, bah écoute, on en reparlera dans l'off-season et puis on verra bien si on a possibilité de faire ça l'année prochaine. Bon, on va attaquer tout de suite alors, on commence par quelques petites news.
Allez, vas-y.
Jingle news! Bon, j'ai pas attendu hein, que tu me donnes l'autorisation de
non,
le lancer.
Tu
m'as dit vas-y, je le lance.
C'est exactement pour cette raison que je te laisse le faire parce que t'as vraiment encore besoin d'entraînement. Hein. T'as besoin de répéter et de le refaire pour vraiment atteindre un niveau, on va dire, correct. Voilà, on tutoie pas les étoiles, hein. On en est loin. Alors, regarde celle de TripAdvisor, mais pas beaucoup plus. Et sinon, effectivement, non, t'as besoin de t'entraîner. C'est pour ça que je te laisse faire.
Ok, bon, allez, on commence par un truc, moi, qui m'a fait plaisir. C'est, on a vu le prospect number one qui a fait
et
ses
oui
débuts. C'est, alors, j'en profite hein, parce que j'ai pas vu beaucoup de nouvelles, tu vois, qui m'ont donné réellement le sourire et celle-là
ouais,
me l'a donné.
Pas tant que ça, ouais.
Donc Jackson Holliday qui a été promu il y a 3 jours, c'était le 10 avril. Il avait fait un spring training de fou, tout le monde s'attendait à le voir déjà débarquer. La plupart des commentateurs, la plupart des suiveurs du baseball s'attendaient à le voir débarquer dès l'opening day et à la surprise générale, les Orioles l'ont remis en triple A. Et finalement, il a déjà commencé à tout éclater en triple A. Donc voilà, la pression devenait trop forte. C'est Tony Kemp qui en fait les frais. Bah voilà, Tony Kemp, bah qu'on a beaucoup aimé voir sur les terrains ces derniers temps, mais c'est vrai que c'est plus du tout le Tony Kemp qu'on avait pu connaître auparavant. Donc c'est lui qui en fait les frais, c'est lui qui va sûrement terminer sa carrière là-dessus. Et puis bah écoute, on va souhaiter beaucoup de courage et beaucoup de bonheur à Jackson Holliday pour sa carrière. Donc voilà. Tu l'as vu jouer un peu ou pas?
Alors j'ai vu le résumé de ces deux premiers matchs. Bon, ça n'a pas été incroyable, mais j'ai vu surtout et ça on s'en fout parce que c'est les premiers matchs, donc on va lui laisser le temps au gamin. Ce que j'ai vu, c'est ce qui était hyper intéressant, c'est la vidéo, et j'adore toujours ces vidéos-là, de l'annonce de son, de sa promotion.
Ouais.
Et le cœur du message de son coach de Triple A, c'est call your dad. En gros, appelle ton père, quoi. Et dis-lui que ça y est, vous l'avez fait, vous avez réussi. Et ce qui est fou, c'est quand il dit non, mais mon frère, il est en pleine saison, c'est pour ça que mes parents, ils sont pas là. Genre, en gros, garçon, c'est pas fini. On en avait parlé, mais la fratrie est là. Donc, ouais, non, c'est cool de le voir arriver parce qu'il y en a d'autres. Hein. Il y a Caminero qui devrait arriver chez les Rays ou d'autres. Mais voilà, c'est toujours sympa de voir un petit jeune arriver. En plus, celui qui a le tag, hein, qui a le patch future vedette, on va voir comment il va se comporter.
Ouais, c'est clair, le number one prospect, c'est toujours assez impressionnant quand on le voit arriver, donc voilà. Bon, ça c'est cool. Deuxième chose, on va en parler, c'est pas un sujet qu'on va développer, c'est pas le sujet du jour, mais il y a eu un gros rebondissement quand même, je sais pas si tu l'as vu dans l'affaire Otani. Eh oui, donc voilà, j'ai pas envie de m'étendre dessus, c'est pour ça on va faire rapidement un complément. Ipey est passé devant l'IRS, le FBI, enfin tout ce qui est de juridiction possible et imaginable aux États-Unis, 3 semaines après l'annonce en fait des problèmes qu'il y a eu et du vol supposé en fait. Il comparait toujours comme enfin, il est toujours innocent. Il n'est pas accusé. Enfin, il est accusé, mais il n'est pas coupable. Mais par contre, effectivement, il y a un gros faisceau de présomption.
Mais il y a confession où il a dit clairement j'ai volé. Il y a une stratégie à la barre de son avocat qui est clairement affichée. Enfin, ou à défaut de clairement affichée, qu'aurait fuité, qui dit ils vont plaider coupable.
Ouais.
Et il y a des chiffres surtout.
C'est-à-dire que dans l'analyse qui a
été faite, il y a des chiffres qui font flipper. Pour vous en donner quelques-uns, le pari moyen, 12 800 dollars. Le plus gros pari, 160 000 dollars. L'équivalent en perte de losing bet de 182,9 millions de dollars. Ça veut dire, en gros, en net loss, qu'il aurait perdu 40 millions. Ça veut dire, on est très très loin des 4 millions évoqués. Hein. Ça veut dire que, en gros, ce qu'on explique, c'est qu'il a perdu 180 millions et il aurait perdu en net 40 millions. Ça veut dire que forcément, dans les 140 millions de différence, bah, il a dû avoir des gains, il a dû en récupérer, etc. Okay. Donc en net, il perd 40 millions. Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a des échanges de textos avec son bookie où il explique, il lui demande en gros de lui faire une recave parce qu'il est mauvais, parce qu'il perd de la thune et tout, dans un format très détendu. Hein. Le gars vient de perdre plusieurs millions et il demande une recave et en expliquant qu'en plus, il a les reins solides. On estime le vol estimé est à 16 millions. 16
ouais.
millions.
Ouais.
Et toujours aucun pari sur le baseball.
Ouais, c'est ça. Et tu sais, alors j'ai vu les mêmes chiffres que toi. T'as vu le nombre de paris qu'il a placé? C'est entre décembre 2021 et janvier 2024. Tu sais, t'as vu combien il y en a eu?
Je l'ai vu passer, je l'ai plus en tête, mais j'étais abasourdi. C'est en milliers, je crois.
Il y en a 19 000. Il y a 19 000 paris qu'il a posés, ça fait à peu près une moyenne de 25 paris par jour. Voilà, donc apparemment, dans tout ce qui aurait été vu, on va mettre on va rester au conditionnel parce que puis en plus nous on va pas le vérifier, on n'en saura rien. Mais dans tout ce qui aurait été vu et qui aurait été tous les documents qui auraient été épluchés, Otani serait pour le moment complètement exempté de quoi que ce soit parce que il n'y a pas de texto compromettant, il n'y a pas de choses compromettantes, il n'y a pas d'échange, on va dire, sonore, il n'y a rien qui peut prouver qu'il ait participé en quoi que ce soit là-dedans. Donc voilà, mais ça va être très compliqué. Là, en fait, j'ai vu qu'il était, il pouvait avoir jusqu'à 30 ans d'emprisonnement. C'est pas mal quand même.
Hein. Ouais, puis il souffre d'un problème, on en a déjà parlé, mais déjà, un, il est hyper médiatisé, il touche à une icône dans le monde entier. Je veux dire, là, Shohei Ohtani va avoir un article dans le magazine de l'équipe ce week-end. Pour qu'un joueur de baseball ait un article dans un média, dans le média sport francophone, voilà, il va toucher à une icône, et il touche surtout à ce que la MLB bannit le plus, à savoir qu'on touche à sa thune. Parce que tu peux frapper des femmes, mais tu ne peux pas leur voler de l'argent ou tenter de jouer avec leur argent en pariant. Ils sont beaucoup plus intransigeants que ça. Juste comme ça, pour vous donner un ordre d'idée, Pete Rose n'est pas au Hall of Fame du baseball, mais il est au Hall of Fame de la WWE, donc la ligue de catch. C'est vous dire à quel point la MLB, c'est con, hein, mais je l'ai vu passer, j'étais sur le huc. C'est vous dire à quel point la MLB porte de l'importance à ça. Guillaume, je crois que c'est le destin, je suis désolé de te couper, je suis en voiture et devant moi, il y a une voiture immatriculée Deutschland qui a comme initiale OHTA pour me signaler que effectivement on est en train de parler d'Otani, les esprits sont avec nous, Guillaume, et c'était ma conclusion sur ce truc.
Ok, merci, c'était vraiment hyper intéressant. Je suis fou de ça. On va attaquer tout de suite le sujet parce que je pense que...
Ah non, j'ai plein d'autres choses, moi.
T'as plein d'autres trucs ? Vas-y, excuse-moi. Ah, oui, alors, vas-y, pars.
Est-ce qu'on a vu, pardon, la boutique officielle des D-backs vendre une photo dans un cadre de Clayton Kershaw dans les NLDS Series, les mains sur les genoux ?
Oh là 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 là, c'est tellement mauvais. Oh la vache, c'est dégueulasse. Franchement, il y a plein de trucs, j'ai pas de problème, mais ça, je trouve ça un peu sale. Et surtout que c'est pas rendre hommage en plus au putain de joueur que c'est, quoi. Mais bon, c'est pas grave.
Et puis surtout que, garçon, tu l'as pas gagné la bague à la fin. Lui, il en a une, même si elle est en toc.
En mousse.
Ça, c'est entre nous. Voilà, enfin, détends-toi.
En vrai, c'est sale. En vrai, c'est sale, voilà. Bon, c'est vas-y, sale, continue. C'est sale.
Est-ce qu'on a vu Anthony Rendon avoir plusieurs hits ?
Oui, on a vu
Anthony. C'est la malédiction à coup sûr, elle marche dans tous les sens. Hein. Quand on dit qu'un mec est mauvais, il devient bon, et quand on dit qu'un mec est bon, il devient mauvais. Voilà, Anthony Rendon, il n'est pas devenu bon, mais il a quand même un peu frappé. Donc,
mais
donc,
en vrai, j'étais content, quoi. J'étais content, mais je vais t'expliquer
bien
pourquoi.
Sûr.
Je vais t'expliquer pourquoi après, en plus. Vas-y, continue.
Mais vas-y, explique-moi tout de suite, on reste sur Rendon.
Alors, parce que je ne sais pas si tu as vu, mais les Angels ont joué des playoffs pour la première fois depuis 10 ans cette semaine.
Putain, mais j'allais t'en parler. Tu sais que j'ai vu, alors je vais t'avouer très clairement, je ne passe pas de temps à jouer au Tipeee, donc je ne vais certainement pas passer de temps à regarder des vidéos.
C'est clair.
Mais par contre, je tenais à te féliciter parce qu'il y a un truc que tu as vraiment capté sur ta carrière de YouTuber et dans la manière dont tu mets tes vidéos, parce que j'en ai regardé un petit bout. Et je trouve ça plutôt cool, c'est que tu as bien compris qu'on est sur un média visuel, donc surtout ne pas montrer ta gueule.
Ah, c'est sale!
Donc voilà. Non, ta tête est basse.
Tu mériterais que je te la coupe, celle-là. Si elle n'était pas aussi bonne, tu mériterais que je te la coupe.
Parfois, tu la nettoies. Attention à cette phrase de je te la coupe, peut être très très mal interprétée hors contexte.
Oui, mais parfois, tu la nettoies, c'est pareil.
C'est applicable pas seulement à ta face. Voilà, ça sort entre nous. Mais voilà, donc je tenais à te dire que oui, tu as fait les playoffs avec les Angels. Par contre, c'est là où on voit que c'est un jeu, parce que j'ai arrêté à ce moment-là. Première simulation, les Twins gagnent une série en post-season. Et on sait tous que voilà, ça, c'est pas possible. Donc pour ça, je me suis arrêté là.
Bon, ok. Alors, donc ça, c'était pour ça que ça m'a fait plaisir, en fait, qu'il réussisse à marquer, à mettre des hits, Rendon. Vas-y, je te redonne la main pour la suite.
Autre chose, est-ce que tu as vu l'épisode Jordan Montgomery, Scott Boras ?
Non, je ne l'ai pas vu.
Ah, c'est pour ça que tu n'en parles pas.
Non, je l'ai
Jordan
pas vu.
Montgomery a officiellement lourdé Scott Boras et est parti dans une autre agence. Alors, je vais être très honnête, je ne connais que Scott Boras en agent du baseball et c'est lui qui a rendu ça possible en vrai. Donc, j'ai vu son nom passer à l'autre gars, mais j'ai oublié. Enfin, l'autre gars, l'autre agent. Néanmoins. Il a changé et c'est apparemment affiché que le contrat signé par Jordan Montgomery ne le convenait pas et que c'est pour ça qu'il a lourdé Scott Boras.
D'accord, ok. Ouais, ça peut se comprendre. En même temps, c'est vrai que cette année, c'était une année compliquée et une off-season compliquée pour Scott Boras. Oui, il va sûrement y avoir des retombées suite à justement ces non-signatures ou ces signatures très tardives sur des contrats pas forcément désirés par les joueurs.
Ne le prend pas mal, Jordan, je pense qu'il lui fait pas trop mal hein, à Scott Boras. Vu la off-season qu'il se prépare avec ceux qui vont arriver en fin de contrat et avec ceux qui pourraient avoir une saison, une belle saison et qui du coup vont signer un contrat de malade, s'ils opt out, ouais, je pense que voilà, c'est OK, c'est un signal fort, mais voilà, c'est ce qu'on disait. Je pense que Scott Boras a limité la casse et un seul qui s'en va, en vrai, c'est pas si pire.
C'est clair. Bah, t'avais vu quoi d'autre ?
Alors, qu'est-ce que j'ai vu d'autre ? Avant de passer sur le sujet, j'ai vu pas mal d'autres choses. Est-ce que, par exemple, on parlerait pas d'une petite stat que j'ai vu passer ? Est-ce que tu sais qui est le home run leader depuis 2017 des Miami Marlins ?
Le home run leader des Miami Marlins depuis 2017 ?
Ouais.
Giancarlo Stanton ?
Oui, alors que c'est sa 7e saison d'affilée chez les Yankees. Il est à 59. Et derrière, tu as Brian Anderson, 57, Jeff Chisholm, 55. Ça veut dire qu'en 7 ans, il n'y a pas un gars qui a réussi sur 2-3 ans à faire mieux que Stanton en une année.
Oh la vache, ah, oh, c'est hallucinant.
Quand on vous disait que les signatures des burgers et tout pour les Marlins, c'était important
pour
avoir des home runs, c'est parce que c'est pas une vanne, quoi. Est-ce qu'on a vu que ça va être une des transitions sur les blessures, Strasbourg officiellement se retirer ?
Alors, c'est la deuxième fois. Je pense qu'on n'est pas à l'abri d'un retour et ensuite d'une troisième, parce qu'on ne dit jamais 203.
C'est le Michel Sardou de la MLB. Il fait sa tournée d'adieu tous les 3 mois.
Elle est crade, celle-là aussi. Mais bon, c'est pas grave.
Déjà, Michel Sardou, c'est crade. Mais voilà, ça, c'est entre nous. Mais non, donc on a vu ça, ouais. Et tu veux un petit follow-up ?
Vas-y.
En gros, c'est aussi tout ça de la part des Nationals envers l'une des légendes de leur franchise et on le sait, le plus gros boitif, etc. Tout ça pour en arriver là, quoi. Ils auraient pu, les Nationals, le faire déjà il y a 6 mois, plus proprement.
Ouais, puis lui faire un truc genre en off-season avec un hommage sur l'opening day. Mais bon, après, ça, c'est encore autre chose. On en reparlera.
C'est entre nous, mais bon, voilà. Est-ce qu'on a vu les Fanatics refaire encore des leurs ?
Alors, j'ai vu un pantalon se déchirer sur un slide.
Le crime des Tigers. Il fait un slide et il arrive, le gars, il est cuisse nue jusqu'à la cheville.
Ah, je l'ai vu, il est énorme, ce truc-là.
Oh là là.
Le pantalon est dégueulasse, quoi.
Le pantalon est dégueu, mais c'est pas forcément de ça dont je parlais.
Vas-y.
Je voulais surtout parler du fait que les Texas Rangers ne porteront pas, n'ont pas porté leur City Connect comme ils devaient le faire, puisqu'ils ne l'ont toujours pas reçu de la part des Fanatics, pas
d'accord,
avant avril. Que les Giants... ne pourront pas, n'ont pas pu jouer en City Connect parce qu'ils ne sont toujours pas arrivés et pas livrés de la part des Fanatics.
Ouais, ça, c'est bien pour nos yeux, parce que moi, trop de orange, tu le orange, hein, ça me fait trop.
Ouais, mais du coup, ça veut dire que t'as pas un club qui a reçu l'intégralité des uniformes qu'il devait recevoir.
Parfait, ça c'est une bonne pub. Ça, c'est une bonne pub.
Et on tape à la money de la MLB. Donc, je me demande qu'est-ce qui va se passer et quand ça va se passer, parce qu'il y a un truc qui doit se passer et les Fanatics vont prendre très très cher quand même.
Bah, le problème, c'est que Nike a déjà lâché un gros, 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 énorme paquet de pognon pour pouvoir avoir les maillots. Donc, pour le moment, en fait, la MLB a un peu le cul entre deux chaises, parce que il va falloir, s'ils veulent gueuler, il va falloir qu'il y ait un truc avec le pognon. C'est pour ça que pour le moment, on entend des oui, on n'est pas très content, mais juste, tu sais, en mode doucement, quoi. Ils sont pas contents, mais en sourdine, ils sont pas contents.
Je pense qu'ils cherchent
la faille.
Ils cherchent la faille avant de s'exprimer et de vraiment. Enfin, je vois pas, très honnêtement, je me demande comment Fanatics pourrait garder à moyen long terme la production des maillots, c'est pas possible.
Ah, c'est clair. Là, c'est trop, trop dégueulasse. Et surtout qu'en plus, à partir du moment où, enfin, ce qui est bizarre, en fait, si tu veux, c'est que c'est à partir du moment où ils ont décidé de changer des trucs que ça s'est mal passé, parce que avant, c'était quand même Fanatics. En fait, c'est la boîte Fanatics a racheté le fabricant, enfin, on va dire, historique des maillots de baseball, enfin, de tous les l'équipementier, en fait, historique du baseball. Donc, en fait, c'est juste parce qu'à un moment, ils ont décidé de faire des innovations, des trucs comme ça. Et là, les innovations prouvent que c'est pas possible. Donc, il va falloir qu'il y ait un retour en arrière ou vraiment qu'il y ait vraiment un gros step-up en avant, quoi.
L'innovation, c'est un truc vieux comme le monde dans l'industrie. Ça s'appelle réduction des coûts d'échelle. voilà. C'est en termes un peu plus street, parce que nous, on vient de la street. c'est de la crevardise.
Ouais, c'est aussi simple que ça.
Voilà. Ouais. Non, mais il faut arrêter. Tu mets moins de coton dans un t-shirt, il est moins épais, il résiste moins. C'est à peu près la base de la base, d'accord ? Et sous prétexte d'un discours RSE et écologique, mon cul, c'est toujours fabriqué par, à mon avis, des petits Taïwanais ou un truc comme ça. Enfin, là, je m'avance, mais j'en sais rien. En vrai, peut-être que je dis de la merde, comme d'hab. Mais il y a un moment, c'est une réduction de coût, quoi. Donc c'est assez affligeant et on n'est pas à la fin de...
Non.
De cette histoire, je pense.
Non, on n'est pas à la fin de cette histoire. Est-ce que tu en as terminé des news ? Est-ce qu'on passe sur la suite ?
J'ai trois petites choses dont je voudrais quand même parler et qui sont plutôt des grosses choses. La première, c'est un combo de deux. Est-ce que tu as vu que les White Sox, ça y est, leur saison a commencé. Ils ont trois joueurs sur la IL.
Bah, je voulais en parler.
Il y a deux semaines, Johan Moncada et Luis Robert. Donc leurs trois meilleurs frappeurs supposés déjà sur la IL.
Ouais, je voulais en parler parce que justement ça faisait partie de l'introduction que je voulais faire à la suite, mais vas-y, c'est bon. Johan Moncada, je l'avais noté, il va le rater de 3 à 6 mois, donc autant te dire que sa saison elle est quasiment terminée, quoi. Donc voilà.
Jiménez n'a pas de temps de retour.
Wow.
Et il l'est depuis le début de la saison.
Oui, Jiménez, oui.
Et Luis Robert vient de tomber dedans et on parle de plusieurs semaines aussi.
Voilà. Il y en a un autre aussi, mais là, ça m'a fait vraiment mal. Je pense que tu as vu. Ouais, c'est Trevor Story qui s'est...
J'ai eu la larme à l'œil, très honnêtement.
Ouais, je suis un peu d'accord, ouais, parce que tu le vois, il fait... J'ai l'impression que ce middle infield chez les Red Sox, j'ai l'impression que c'est... Il y a comme une malédiction dessus, tu vois. J'ai l'impression de voir les blessures de Pedroia, surtout qu'il s'est laissé pousser la barbe. Trevor Story, ouais. Il a un peu la même tête que... Il est, franchement, il me fait penser à Pedroia.
Et le problème, c'est que c'est une blessure où il hustle, comme d'habitude, il essaye de faire un play... Parce que c'est un très bon joueur défensif. Il essaye de le faire, il le fait pas. Il se pète l'épaule. Et c'est un mec qui revenait de grosses blessures. Les White Sox, quand ils l'ont signé, on était tous. Enfin, nous.
Les Red Sox.
Les Red Sox, pardon. Quand ils le signent, nous, on avait un peu tapé dessus en disant non, mais attends, les mecs qui signent un joueur vedette, ok, mais qui va pas revenir avant X temps. On sait pas dans quel état il va revenir. Bon, ils ont fait le pari, le mec revient, c'est un top joueur. Ça a été un top joueur. Et en fait, on se demande s'ils vont pas avoir un Chris Sale 2, quoi, tu vois.
Ouais, c'est clair.
L'éternel, il va revenir et quand il revient, il se pète. Tu te dis quand même qu'il y a de la fragilité chez le bonhomme pour qu'au bout d'un moment, il n'arrête pas de se blesser sur des jeux qui paraissent un peu anodins.
Surtout que là, c'est pas deux petites blessures, c'est deux grosses blessures coup sur coup, quoi. C'est la grosse blessure, le retour et repartir sur après quelques semaines, repartir sur une nouvelle grosse blessure. Alors déjà, de toute façon, ça c'est sûr, on le voit plus avant la fin de la saison. Mais après, quand est-ce qu'on va le revoir ? Ça, c'est aussi une autre question.
Et à quel niveau ? Enfin, je veux dire, on parle quand même d'un poste shortstop qui physiquement demande à avoir des athlètes. Qui peuvent défensivement jouer comme ils le jouent dans un sport où on demande de plus en plus d'avoir des athlètes sur base et tout. Le gars multiplie les blessures à des endroits assez stratégiques de son corps pour jouer au baseball.
Ouais.
J'ai eu beaucoup de peine pour lui, beaucoup de peine pour les fans des Red Sox, surtout qu'ils font un excellent début de saison avec une ERA et un pitching staff. Je ne sais pas comment, mais sorti de nulle part. Donc, on se disait que voilà, Trevor Story, etc. Ouais, c'est difficile à encaisser pour lui, et c'est pour ça que je te dis que ça fait partie de ces semaines où j'ai pas passé une méga bonne semaine, dans le sens où quand t'es fan, bah tu veux pas voir de joueurs blessés, et ces joueurs-là encore moins.
Ouais, c'est ça. Moi, c'était vraiment les deux grosses blessures que j'ai vues. T'avais une dernière chose à voir encore ? Tu m'avais dit, t'avais deux trois trucs.
Non, c'était ça, c'était les deux combinés, c'était cette série de blessures qui s'ajoutait à notre sujet, en fait.
Eh ben oui, notre sujet, parce qu'on nous a demandé ce qu'on en pensait, et on s'est dit que le mieux, c'était quand même qu'on en parle entre nous, plutôt que de l'écrire en quelques messages sur Twitter. C'est toute la polémique qu'il y a justement aujourd'hui sur les blessures des pitchers, que ce soit les starters, que ce soit les relievers. Donc voilà, il y a eu encore, il y en a beaucoup qui ont été blessés, bah, déjà de l'année dernière. Il y en a beaucoup qui se sont blessés depuis le début de l'année. On fait un petit point. Il y a les Cy Young winners, Justin Verlander, Max Scherzer, Jacob DeGrom, Gerrit Cole et Alcantara qui sont tous sur la injured list. Lucas Giolito et Brandon Woodruff qui sont out pour la saison. Walker Buehler, Chen McClanahan et German Marquez qui récupèrent de Tommy John. Le Justin Steele et Kodai Senga qui viennent d'être out. Et la star des Dodgers, Shohei Ohtani, qui ne pitchera pas avant 2025. La saison, elle a commencé.
Ah, il manque, hein.
Oui, non, mais il y en a d'autres hein, encore, mais je vais te laisser après. C'était juste pour dire que la saison a ouvert cette saison avec 166 joueurs sur l'IL, dont 132 pitchers. Voilà, je te laisse pour le suivi.
Ouais. Le truc, c'est si je fais la liste complète, enfin, quasi exhaustive, parce qu'entre temps, ça a bougé, c'est Josiah Gray, Nick Pivetta, Jonathan Loaiziga, Framber Valdez, Shane Bieber, Spencer Strider, Yuri Perez, Sandy Alcantara, Jacob DeGrom, Tyler Malleu, Jordan Romano, Anthony DeSclafani, Luis Garcia, José Urquidy, Lucas Giolito, Kyle Bradish, Robbie Ray, Félix Bautista, Shane McClanahan, Shane Baz, Jeffrey Springs, Drew Rasmussen, Walker Buehler, Dustin May, Tony Gonsolin, German Marquez, Antonio Senzatella et Lance McCullers. On ne parle pas de petits joueurs. Hein. Là, on a mis les noms vraiment des lanceurs, starters ou relevers, qui sont la plupart des game changers pour la MLB, mais à minima pour leur équipe. C'est assez important. Et moi, je veux qu'on commence tout de suite par dire un truc. Le discours de la pitch clock n'est pas suffisant.
Non, c'est le gros problème justement, et parce que là en fait on voit qu'il y a deux entités qui sont en train de se déchirer là-dessus, qui sont la MLBPA qui maintient que le problème vient de la pitch clock, et la MLB qui fait des communiqués en disant que c'est pas la pitch clock, que la pitch clock ça marche et tout ça. La pitch clock a sûrement une incidence dessus. Ça a peut-être accéléré, c'est possible. Mais le problème des blessures des pitchers, elle date pas que de la saison dernière. C'est pas la saison dernière que les pitchers, ils ont commencé déjà à se blesser en cascade, qu'on a eu une cascade de Tommy John dans tous les sens.
Après, les chiffres disent quand même, excuse-moi, je te coupe rapidement, qu'en 2023, il y a eu plus de Tommy John que sur toute la décennie des années 90. Mmh. Mais, c'est prouvé et reprouvé que l'impact numéro 1 et l'impact numéro 2 de ces blessures des lanceurs, c'est la recherche de toujours plus de vitesse et de vélocité et la recherche du spin rate toujours aggravé parce qu'ils mettent une torsion dans leurs bras qui n'est pas naturelle.
Oui, c'est clair. J'ai pris comme ça deux trois phrases de 2-3 lanceurs un peu iconiques. T'as Pedro Martinez qui dit « The analytics department has forced the young kids by pressuring them to have revolution, velocity and spin rates. That's too much for baby ligaments. » En gros, c'est qu'on les a forcés à lancer plus fort avec plus de rotation et en fait, ils ont pas les ligaments assez forts. C'est jeune en fait pour pouvoir tenir le coup quoi. Justin Verlander qui dit aujourd'hui
elle est magnifique l'interview de Justin Verlander.
Ouais, il dit aujourd'hui tout le monde essaye de lancer le plus fort possible et de faire tourner la balle, de lui donner le plus de rotation possible quoi. Il dit ça a changé la phase du pitching et moi-même ça a changé la façon dont j'approche le pitching aujourd'hui quoi. Tu vois Justin Verlander quoi.
Qui Justin Verlander dans ses années Tigers était l'un des starters qui lançait le plus fort et qui lançait le plus longtemps. Déjà à cette époque-là, et qui depuis a changé, et depuis qu'il a changé, il l'a dit notamment chez les Astros, il s'est pété l'aura.
Ouais, mais la différence en fait, c'est ce que je suis pas un grand fan de Ben Verlander, mais je l'ai lu aussi, il disait quelque chose d'intéressant. Il disait voilà, Justin, c'est un des mecs il y a 10 ans qui lançait le plus fort. Il pouvait atteindre les 100, 101, voire 102 mph quand il lançait vraiment fort, mais il lançait pas fort tout le temps. Ces balles, elles étaient régulièrement, il était à 91, 92, 93, et ça se potait, quoi. Et en fait, aujourd'hui, On te demande pas de lancer à 91, 92, 93. C'est vraiment la recherche de la, pour les starters, c'est la recherche de la vitesse, de la puissance. Et ensuite, après, enfin, je schématise un petit peu, mais parce que ce, non, en fait, que ce soit starter et releveur, c'est toujours la même chose. Tes balles à effet, on cherche à ce qu'elles aient le plus d'effet possible. Et ta balle rapide, on cherche à ce qu'elle aille le plus vite possible. Et c'est ça le gros problème.
C'est assez simple. C'est qu'aujourd'hui, les data, les metrics montrent à raison que ce qui apporte le plus gros taux de succès d'élimination, c'est la vitesse et le spin rate. C'est comme ça, c'est un fait, c'est un fact. Okay, on peut difficilement se battre contre ça. Le problème, c'est qu'on parle de deux critères de performance qui tapent sur, et tu l'as dit tout à l'heure, il faut qu'on revienne dessus, sur un élément du bras, c'est le ligament. C'est le seul élément que tu ne peux pas muscler. Mm. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Et du coup, on demande ça aux jeunes depuis longtemps. Aujourd'hui, un starter qui lance en dessous des 90 n'atteindra pas les majors.
Ah, c'est clair.
C'est tout. Et quand je dis starter, je ne parle même pas des releveurs. Hein. Mais les derniers rares qui ont encore ce genre de lancer, c'est peut-être des gens comme ça qui sont peut-être, mais qui fleurent juste au-dessus. Et on voit leurs résultats dernièrement, ils ne sont pas fous. La question, c'est quand les mecs ne lançaient pas à 100 et quelques, n'avaient pas le spin rate de malade, on n'a pas vu non plus un OPS et un OBP descendre de manière drastique par rapport aux frappeurs depuis qu'on a commencé à lancer beaucoup plus fort et en faisant beaucoup plus tourner la balle. En fait, le problème de ça, c'est que le communiqué de la MLBPA, encore une fois, c'est un communiqué qui vise à défendre les joueurs, ok, mais qui vise aussi à se défendre eux-mêmes, dans le sens où la MLBPA, dans la manière dont il promouvoit les jeunes, les joueurs, etc., c'est une MLBPA qui aussi sait que les joueurs vont performer en lançant fort et en faisant avec un gros spin rate, donc ils poussent ça. Et quand ils appuient sur la pitch clock, il nous faut croire que c'est que la pitch clock. Mais il y a plein de raisons. Et il y a des éléments que je ne vois pas arriver dans la discussion qui me rendent dingue. C'est la baisse du nombre de lanceurs dans les rosters. C'est le nombre de matchs qui ne va pas baisser, mais qui potentiellement, avec une extension déjà envisagée, va augmenter. C'est le nombre de lancers encore un peu plus que l'on demande aux lanceurs. C'est-à-dire que le lanceur qui a commencé à lancer il y a 100 et quelques, il y a 5-6 ans, lui, il pouvait s'en aller à 4 manches. Maintenant, on lui demande de rester 6. Donc, en fait, on ne fait que pousser sur le lanceur pour gagner. En fait, on ne veut pas éliminer ce qui se fait de mieux parce que toi et moi, on veut voir des lanceurs qui lancent à 100 et quelques avec des spin rates de ouf. On est comme des malades à regarder ça. Mais au bout d'un moment, si ça tue le game et si c'est pour qu'on n'ait plus les meilleurs joueurs, il va falloir faire un choix, les gars. Là, il faut légiférer, mais légiférer fort et dans le souci de protéger les joueurs, sans dénaturer le jeu, mais pour protéger les joueurs.
Après, qu'est-ce que tu vois ? Moi, j'avais, enfin, c'est pas moi qui vais donner les solutions. Moi, ce que je vois, c'est que je suis d'accord avec toi et on en avait parlé au moment où il y avait eu l'annonce de la MLB qui voulait forcer les starters à faire 6 manches minimum. C'est une connerie monumentale. Tu peux pas. Moi, je pense que ça, c'est pas possible. Soit on va avoir désormais des starters qui vont faire des starts beaucoup moins longs. Voire 2-3 manches, pas plus, et ensuite après passer sur le bullpen, ou alors à ce moment-là on va voir, mais ça devrait aller de pair si tu veux avec une multiplication, une augmentation du nombre de lanceurs dans ton roster. Parce que si tu veux faire
ça,
ça
veut dire une diminution comme
ça.
Non,
mais non. Moi, franchement, je pense que ce serait plus intelligent de dire ok, on veut qu'il y ait quand même du spectacle, on veut que les gars puissent lancer et tout, il n'y a pas de souci. Et pour éviter justement qu'ils lancent trop longtemps, on va augmenter le nombre de joueurs, le nombre de lanceurs, que ce soit des starters ou des releveurs dans ton bullpen, enfin dans ton pitching staff. Et aller le plus loin possible comme ça, en essayant de moins tirer sur les gardes des organismes. Mais tu vas te retrouver dans un autre problème, c'est que si tu commences à faire des changements tous les deux frappeurs et tout, tu vas te retrouver avec des interruptions de match qui vont faire réaugmenter le temps de durée d'un match de baseball. Et là, ça va commencer à poser problème aussi encore, parce que s'ils font ça et qu'à ce moment-là, ils rebaissent à nouveau le temps entre les lancers, alors on va se retrouver dans une situation ubuesque, quoi. Tu vois ce que je veux dire?
Je comprends parfaitement. Moi, j'ai une solution que j'ai vu passer sur le net qui m'a beaucoup fait rire, mais que je trouve très cohérente. Il faut faire revenir les colliers Fitens qu'à l'époque, les lanceurs des années 90 mettaient en nous faisant croire que ça atténuait les blessures. Tu te rappelles de cette
scène? Ouais, ouais, oui.
C'était 25 balles. Tu le mettais autour du cou et genre, t'étais meilleur joueur.
Eh, mais il y en a plein qui le portaient. Félix, King Félix, il en avait un. Il l'a gardé pendant toute sa carrière.
Mais oui. Il y en a plein. Mais non, mais je pense qu'en fait, en vrai, c'est c'est une question de culture. C'est une question de culture. C'est une question de arrêter de voir des lanceurs de 15 ans avec des radar guns, par exemple, tu vois.
Ouais.
C'est remettre la Matrix là où elle est intéressante et s'en servir au profit aussi du joueur. Pas qu'au profit de la performance et du spectacle. Et en fait, j'ai pas de vraie solution, parce que tu vas dire quoi? Tu vas dire, regarde, si tu lances au-dessus des 100, t'as une amende, c'est une balle?
Non, mais aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est que la franchise, elle se rende compte que ça va pas forcément être bénéfique pour elle, que ses lanceurs performent ultra pendant 15 jours et qu'ensuite, après, ils soient blessés pendant 6 mois. Et qu'en fait, si tu veux être performant, il vaut peut-être sur toute l'année, il va peut-être falloir à un moment que tu fasses quelque chose, tu fasses en sorte que tu gardes tes lanceurs en santé, je sais que t'aimes bien cette expression, que tu les gardes en santé le plus longtemps possible sans qu'ils aient à toucher la IL, quitte à ce qu'ils lancent moins fort, quitte à ce que les rotations soient moins importantes. Au final, ça fera peut-être plus de bâtons, il y aura plus de spectacles, il y aura plus de choses comme ça, mais c'est surtout que tu vas garder tes joueurs plus longtemps, quoi. Parce que là, il y en a combien qui vont encore se péter? Quand tu vois que les mecs, ils font une première Tommy John surgery et que des fois, ils en font même une deuxième après derrière parce que la réparation, elle a pas suffi. Tu te rends compte? On va aller quoi? Maintenant, tous les deux ans, les mecs, ils vont aller en Tommy John surgery pour se refaire faire le truc parce que c'est pas possible. On peut pas continuer comme ça. C'est pas possible autrement.
Ouais, je suis d'accord. Ça va devenir, il y a un moment où, en fait, il y a un choix réel à faire entre tout pour le spectacle et la santé des joueurs. Parce qu'au final, pardon, je te rejoins sur un truc qui est très important et qui pour moi est essentiel. C'est, tu peux avoir les meilleurs joueurs du monde, mais s'ils sont tous blessés, du point de vue de la MLB, t'as perdu.
C'est ça.
T'as perdu parce que les mecs, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils viennent pas voir Josh Harrison ou Rovney Odor, quoi, tu vois.
oui, je suis d'accord avec toi.
Non, mais ils viennent pas voir JP Sears. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Non, mais voilà, il y a un moment, les mecs, ils viennent voir les vedettes, quoi. Donc, quand tu vas voir les Padres, tu t'attends à voir des shortstop. S'ils commencent à recruter des deuxièmes bases, tu rempliras plus le stade. Pareil chez les Phillies, si tu n'as pas de DH, tu rempliras pas le stade. Donc, il y a un moment, si tu veux remplir le stade, il te faut des vedettes. C'est comme ça.
C'est clair.
Donc, si tes vedettes, elles sont toutes blessées, bah mec, ton niveau, fatalement, il va baisser, quoi. Donc, il faut trouver quelque chose, il faut trouver une solution. Et je ne l'ai pas, moi, personnellement. Mais il y a des têtes pensantes, il y a des gens, il faut bosser dessus. Et puis surtout, le problème en fait de se focaliser sur la pitch clock, c'est qu'on a trop peu de recul pour s'assurer que c'est vraiment ça qui est le dysfonctionnement en fait. Et la MLBPA se refuge derrière la sécurité, parce qu'en plus la MLBPA se réfugie derrière quelque chose qu'ils ont d'eux-mêmes dit, ça marchera pas. Donc c'est facile de faire ça.
Oui, non, mais là c'est clair que de toute façon c'est une guerre. Là aujourd'hui, les échanges qu'il y a entre MLBPA et MLB, c'est une guerre de communication. Mais comme toujours, de toute façon, entre ces deux entités. Donc c'est pas. Je pense pas que la solution elle vienne d'eux pour le moment, parce que il faut mieux écouter les lanceurs qui connaissent, qui jouent, qui se démarquent d'ailleurs, puisque tu vois un mec.
Gerrit Cole a pris position.
Ouais, c'est ce que j'allais dire justement.
A pris position, et en plus on parle de mecs comme Gerrit Cole ou Verlander qui sont directement concernés parce qu'ils sont en plein dedans. Et les mecs ont pris position et ils ont pas dit que c'était la pitch clock en fait.
Ouais, non, mais complètement.
Si ces gars-là le disent. La MLBPA fait un communiqué pour qui ? Pour les joueurs ou pour eux ?
Ah non, mais c'est pour eux, clairement. Mais c'est clairement pour eux. Mais c'est pour ça que je suis content de voir, tu vois, surtout Gerrit Cole, qui est un ancien, justement, joueur représentant au niveau de la MLBPA. Il a été pendant 8 ans, je crois, il a été représentant des joueurs à la MLBPA, qui décide justement de ne pas suivre le discours de la du syndicat, ni le discours de la MLB, pour proposer lui-même son interprétation du truc. Et j'ai trouvé ça super de sa part, parce que c'est pas forcément celui qu'on entend le plus régulièrement pour dire des choses comme ça. Donc voilà, j'étais content de l'entendre lui.
Yes, je suis d'accord.
Est-ce que on se fait une petite connerie pour terminer, Mike?
Allez, on va essayer de s'en faire une, non?
Allez, bah écoute, un petit coup de générique et on se retrouve juste après. Were you trying to get crazy with this thing? Don't you know I'm loco? The fuck is with this guy? Who is he? Bon, Mike, est-ce que tu as une connerie cette semaine?
Pas vraiment.
Moi non. Je
comptais sur toi là.
Moi non plus. Alors, on va commencer, on va faire un truc très simple. Qu'est-ce que tu as préféré qu'est-ce que tu as préféré voir depuis le début de la saison? Est-ce qu'il y a un truc vraiment qui t'a plu où tu dis putain, ça c'était vraiment un moment génial?
Pour l'instant, très honnêtement, je vais faire un truc un peu global. Je suis plutôt content de voir des joueurs performer qui n'avaient pas forcément été au rendez-vous, qui se sont mangés un petit peu plein la tête. Je pense à des Anthony Volpi, je pense à du Christian Yelich, je pense à des mecs comme ça qui, depuis le début, je pense à Mike Trout, depuis le début, sont des mecs qui performent plutôt pas mal et ça fait plaisir de les voir comme ça parce qu'encore une fois, on ne souhaite jamais le malheur à des joueurs, sauf à Aroldis Chapman.
moi, j'ai été content de revoir les sorties de Chris Sale parce que on lui a bien tapé dessus.
Pareil, ouais.
Pendant des années.
Dans le truc, ouais, je suis
d'accord. Et là, je trouve que le voir bien lancé et ça fait plaisir et je suis content pour lui. Je suis content aussi pour les Red Sox parce que la saison dernière, elle a été compliquée. Je pense que la saison qui va venir va aussi être compliquée, mais de les voir commencer sur les chapeaux de roue la saison. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Qu'est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a pas plu dans ce que tu as vu, un truc que t'as vraiment pas aimé?
Alors oui, on parle de ce qui a remplacé le baseball zen cette année ou comment ça se passe?
Vas-y. Moi, j'ai pas trop regardé via MLB, donc je ne pourrais pas te dire. Moi, j'ai regardé par d'autres moyens un petit peu plus.
D'autres biais illégaux, ouais, j'ai l'impression.
Exactement. Ou moi, j'ai vu des pubs américaines, et franchement, c'est cool. Je regarde pas les pubs françaises, mais les pubs américaines, elles me font bien rigoler. Donc voilà. Donc,
qu'est-ce qui a remplacé le baseball zen? En fait, c'est un espèce de truc qui s'appelle Moments.
Ouais, ok,
et
d'accord.
En fait, c'est des moments, mais genre répétés en boucle, et c'est tout le temps le même Moments, et c'est une pub. En fait, c'est With Moments, you can have a special moment with the MLB as a fan, a real fan experience. Get to the field, get to the Cooperstown. Mais mec, mais ferme ta gueule en fait. Tu sais, ça fait penser à la pub, la pub pour les vieux, le pansement des héros. Tu te
rappelles ça, ouais, Mercurochrome, le pansement des héros. Et les si je vais bien, je vais mine aussi, les 6 d'affilée.
Mais non, ouais, ça. Mercurochrome, le pansement des héros. Si je vais bien, je vais mine. Et il passait pendant la coupure pub de 3 minutes, 8 fois la pub.
Ouais, je me souviens, c'était marrant.
C'est le même délire. C'est insupportable.
Qu'est-ce que j'ai pas aimé moi? J'ai pas aimé le tackle de Rhys Hoskins. J'ai détesté ça. Et puis là en ce moment j'aime pas. J'aime pas voir les Astros là où ils sont. parce que ça me fait chier de les voir un petit peu et tout le monde leur tape dessus. On est qu'à moins d'un mois, on est à 3 semaines de ça a commencé depuis 3 semaines, 2 semaines.
Non, moi tout ça j'adore Guillaume, parce que ça va alimenter très fortement notre épisode de début mai avec les conclusions bien trop hâtives, parce que là apparemment l'affiche des World Series ça va être Angels Pirates.
Oh putain, super. Ah bah ça me fait plaisir.
Non, mais
chaque année fort, normalement c'est pas l'année dernière, mais c'était pas l'année des Pirates d'ailleurs, et puis ça fait quelques années que c'est l'année normalement des Angels, d'après ce que je, enfin c'est toujours les mêmes qu'on voit en finir en World Series.
Non mais bon, tu vois, voilà, et on a déjà des franchises qui sont terminées, d'autres qui sont au sommet. Les gars, respirez, détendez-vous, ça fait à peine 3 semaines de match, la saison est dure.
Oui. La saison n'est finie que pour les White Sox et les Marlins. Après, pour les autres, ça se joue encore, quoi.
T'as oublié les Rockies.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, il y a les Rockies. Mais eux, ils me finissent par me faire de la peine, quoi, parce que c'est pas possible. Et surtout qu'en plus...
N'oublions pas les Rockies. Et n'oublions pas la saison pour qui elle n'a jamais commencé, les Athletics.
Merci beaucoup Mike. Sur ce, je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur toutes les applis de podcast, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Mike, je te pose la question et je pense que tu vas me donner la même réponse que d'habitude, peut-être. Est-ce qu'on se retrouve à coup sûr la semaine prochaine?
S'il n'y a pas un communiqué de la MLB comme quoi je me suis fait un flexor strain ou un truc comme ça,
normalement je suis là. Ouais, et on sait jamais, peut-être que la MLB un jour va accuser à coup sûr d'être le problème de blessure chez les. Oui, c'est la faute d'à coup sûr. À chaque fois qu'ils annoncent qu'un joueur est bien, il se blesse, donc c'est la faute d'à coup sûr. On n'est pas loin quand même. Hein. Bon.
Oui, ok.
Allez.
On est loin quand même. Mais ouais. Ok.
On sait jamais. Allez, moi sur ce, je vous souhaite de passer une bonne semaine, et puis je vous dis à très vite, je vous fais des gros bisous. Ciao. And Matt lifts his ball high, deep to right. How about a walk-off three? Put that one in your Rockies opening day memory book. One pitch and Ryback says, I'm out.